Bonjour et bienvenue dans Le Sens de l'Actu. C'est donc votre rendez-vous de décryptage de l'actualité plutôt très critique du capitalisme à complet contre-courant de ce qu'on peut entendre chez les médias de milliardaires, chez les médias de, que j'appelle de propagande. Et on va traiter de sujets dont vous entendez beaucoup parler, mais d'une toute autre façon. C'est un petit peu mon créneau. Et en remettant beaucoup en contexte aussi les choses, notamment historiquement. Et donc ce mois-ci, c'est de Cuba dont nous allons parler. Il y a beaucoup à dire. Alors, voici le focus. Comme vous en avez peut-être entendu parler récemment, même si c'est un petit peu noyé parmi d'autres actualités très impactantes, Cuba est actuellement assiégé par les États-Unis. C'est littéralement un siège, quoi, comme au Moyen-Âge. Depuis début janvier dernier, le kidnapping de Maduro par Donald Trump et son coup de pression sur le gouvernement vénézuélien, il n'y a plus aucun baril de pétrole qui part du Venezuela pour Cuba. Le pays est sur le point d'expérimenter l'option zéro. L'option zéro, c'est un scénario qui a été élaboré après la chute de l'Union soviétique, URSS, en 89. Et URSS, qui à l'époque, jusqu'à sa chute, était en effet un grand allié de Cuba et qui lui fournissait énormément de matières premières et qui commerçait avec Cuba, quoi. Et au moment de la chute du mur de Berlin, Cuba est entré dans ce qu'on appelle la période spéciale en temps de paix, pendant laquelle l'embargo imposé par les USA pesait très lourdement sur l'île, donc au régime communiste. Un embargo, donc, c'est un blocage commercial. En gros, on arrête de commercer avec un pays. Et là, en l'occurrence, les États-Unis avaient aussi tenté d'empêcher par tout un tas de moyens d'autres pays de commercer avec Cuba. Et donc, à cette époque, le pays se préparait déjà au pire en imaginant comment faire fonctionner les services essentiels, comme les hôpitaux, par exemple, après un blocage total des importations et donc pénurie de carburant, notamment, et de plein d'autres choses. Et c'est une trentaine d'années plus tard, aujourd'hui, avec l'avènement du Trumpisme, qui est un peu une forme terminale du cancer impérialiste états-unien, que ce scénario est en train de se concrétiser malheureusement. En effet, les menaces de Trump sur les tarifs douaniers imposés aux pays qui ne participeraient pas à cette opération meurtrière qu'est son blocus imposé à Cuba et qui essaierait de contourner le siège ont malheureusement porté leurs fruits en grande partie. Et dans ce monde tétanisé par la peur des empires prédateurs, États-Unis en tête, il se trouve que seulement certaines aides humanitaires parviennent à rentrer. Et quelques livraisons de pétrole aussi qui passent par d'autres circuits que le gouvernement cubain, mais ça reste très rare et le pays est en très grande difficulté. Mais pourquoi tant de haine et d'acharnement de la part des USA envers un petit pays de seulement 11 millions d'habitants qui a pour seule richesse un sol propice à la culture de la canne à sucre et du tabac? On va, comme c'est maintenant notre habitude dans le sens de l'actu, remonter le temps jusqu'à une date clé pour mieux comprendre tout ça, au lieu de balayer juste le sujet. Cette date clé pour mieux comprendre l'histoire de Cuba, ça pourrait être ce jour du 1er janvier 1959, quand le révolutionnaire Fidel Castro entrait dans Santiago de Cuba pendant que les guérilleros de Che Guevara prenaient la Havane. Mais pour vraiment bien comprendre ce qui se joue dans cette île des Caraïbes, on va remonter encore plus loin. En 1895, Cuba fait encore partie de l'empire colonial espagnol, alors que de nombreux pays d'Amérique latine ont déjà obtenu leur indépendance. Comme toute colonie, l'île est alors victime de la prédation extractiviste d'une puissance coloniale, qui exploite ses ressources, donc les ressources de l'île de Cuba, à l'aide d'une main d'œuvre miséreuse et maltraitée, extrêmement mal payée, donc on est proche de l'esclavage, même si l'esclavage avait été aboli officiellement en 1880. Les descendants d'esclaves demeurent dans la misère, donc le prolétariat paysan vivote et une élite locale rêvent de prendre le pouvoir et d'accéder à l'indépendance. Les États-Unis, à cette époque puissance industrielle et militaire montante, encore occupée par le génocide des Amérindiens, la mise en place de la ségrégation raciale à la place de l'esclavage et l'éradication d'un fort mouvement ouvrier sur leur propre territoire, les États-Unis s'emploient en parallèle à dépecer l'ancien empire colonial espagnol pour y imposer bien sûr leur propre domination. En 1895, donc, quand une guerre d'indépendance éclate à Cuba, cela éveille l'appétit des Yankees. Les Yankees, c'est les Américains, c'est comme ça que je les appelle ici. Il leur suffira en 1898 de l'explosion d'un cuirassé américain, l'USS Maine, pour justifier leur intervention militaire aux côtés des indépendantistes et contre la monarchie espagnole. Donc, lors d'une guerre qui a été extrêmement meurtrière, il y a, je crois, presque un dixième de la population cubaine qui a trouvé la mort à cette occasion. Donc, mieux équipée et appuyée par une armée indépendantiste déterminée, l'armée états-unienne parvient à battre les troupes royalistes espagnoles. J'ai perdu mon texte, excusez-moi. Évidemment, donc cette guerre d'indépendance aura surtout permis aux Cubains de changer de maître. Désormais, ce seront les USA qui se serviront de l'île comme d'un comptoir à sucre et à tabac peuplé d'esclaves et dominé par une aristocratie très coopérante avec les États-Unis. À partir de ce moment, Cuba sera donc le pré-carré des États-Unis et sa soumission sera assurée par des dictateurs sanguinaires tels que Gerardo Machado dans les années 1920 ou Fulgencio Batista à partir de 1940. Nul besoin de préciser que la situation des Afro-Cubains et de la petite paysannerie cubaine n'évolue pas d'un iota, pendant que les grandes firmes états-uniennes, main dans la main avec des mafias d'origine italienne comme la Cosa Nostra et l'aristocratie locale, font de la Havane un gigantesque parc d'attractions, un bordel et un casino pour tous les gros dégueulasses aux poches pleines de dollars. Un cauchemar en somme. Mais nous sommes dans les années 50 et à cette époque, les peuples du monde entier se prennent à rêver d'une société plus juste, égalitaire et heureuse. L'idéologie communiste, mise à mal par une application tyrannique en URSS, accomplit pourtant certaines prouesses, notamment sur l'éradication de la famine et l'alphabétisation des masses ouvrières et paysannes, et ce, dans plusieurs pays, en Chine, en ex-Yougoslavie et ailleurs. Donc c'est à l'époque une réalité qui a des accomplissements d'une doctrine communiste. Parallèlement, un mélange de keynésianisme et de socialisme sort de la misère des millions de personnes là où il est expérimenté, en Argentine, au Chili, en Indonésie, en Iran, au Brésil, entre autres. Donc le keynésianisme, petite parenthèse, c'est un système de redistribution qui cherche à booster l'activité économique et à maintenir la stabilité économique par une certaine redistribution des richesses qui est pas encore du tout le socialisme ou le communisme, mais qui est peut-être une bonne voie parce que c'est par la redistribution et certaines subventions sociales qu'on entretient comment dire, une harmonie de la société. Voilà, c'est ma définition du keynésianisme, mais il faut se renseigner sur l'économiste John Maynard Keynes. Donc voilà, il y a des accomplissements de toutes ces doctrines politiques à l'époque, communisme, socialisme, keynésianisme. Et donc, alors que les réalisations de la gauche au sens large sont bien palpables, la révolution couve à Cuba et c'est Fidel Castro qui l'incarnera symboliquement. Ce jeune avocat, fils d'un riche propriétaire terrien en rébellion contre l'ordre social de l'époque, essaya la voie institutionnelle en portant plainte contre Batista, parce que Batista avait pris le pouvoir lors d'un coup d'État, et donc c'était selon Fidel Castro, qui était avocat, anticonstitutionnel. Il avait tenté donc cette voie juridique. Mais il prendra les armes et tentera l'assaut de la caserne Moncada à Santiago de Cuba le 26 juillet 1953. Son parcours d'étudiant et d'avocat aura fait de Castro un farouche anti-impérialiste, et même si sa tentative de coup d'État échoue et qu'il est emprisonné puis s'exile au Mexique à sa libération en 1955, il reste déterminé à chasser Batista du pouvoir et à stopper l'ingérence états-unienne à Cuba. L'ingérence, c'est quand un pays intervient dans les affaires d'un autre pays et c'est considéré comme illégal par le droit international en général. C'est au Mexique qu'il rencontrera que Fidel Castro rencontrera, entre autres révolutionnaires de gauche, beaucoup de Cubains, mais aussi Ernesto Guevara de la Serna, plus connu sous le nom de Che Guevara, un jeune médecin argentin qui arpente l'Amérique latine, pardon, à la recherche d'un pays mûr pour l'insurrection. Commence alors une histoire improbable, digne d'un film. L'équipe de révolutionnaires planifie la prise de Cuba, s'achète une embarcation du nom de Granma, et à bord de l'île le 2 décembre 1956 sur un bateau qui prend l'eau avec seulement 82 personnes. Ils seront attaqués par les troupes de Batista à leur arrivée et seulement 16 d'entre eux survivront, donc le premier jour, qui se cacheront dans les montagnes de la Sierra Maestra. On peut penser à juste titre que ces gens étaient complètement fous. Sûrement un peu, mais pourtant ils avaient bien compris que ce n'est pas avec 80 révolutionnaires qu'ils prendraient le pays. Ils comptaient plutôt sur une insurrection populaire. Et ils avaient vu juste. Les paysans sans terre, miséreux, exploités, tyrannisés par les grands propriétaires terriens qui fixent les salaires et les prix à cette époque, rejoindront massivement les colonnes révolutionnaires. Donc c'est une vraie armée révolutionnaire qui se met en place à partir de sur la base de quelques guérilleros débarqués en catastrophe à Cuba. Cachés dans les forêts et les montagnes, ils établiront des camps d'où ils sensibiliseront les populations à l'utopie égalitaire. Dans ces camps, des médecins soignent les guérilleros blessés et les villageois des alentours. Des radios clandestines appellent au soulèvement des populations depuis la jungle. Et après maints événements et affrontements, que je ne vais pas vous détailler ici parce que c'est très complexe la révolution cubaine, La Havane et Santiago de Cuba sont prises en 1959 et donc le dictateur Batista tombe. C'est Fidel Castro donc qui accède à la présidence et Che Guevara deviendra son ministre de l'Industrie et citoyen cubain également pour ses accomplissements pendant la révolution. Je continue à vous raconter cette histoire de Cuba après un petit morceau de musique.
Quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz. En plena luz, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino. Estamos tú y yo intactos, quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. En plena luz, 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 en plena
Voilà, vous vous êtes de retour sur Radio Escapade, émission Le Sens de l'Actu, de décryptage de l'actualité. On parlait de Cuba. C'est donc Al final de este viaje qu'on vient d'écouter, parce que c'est un petit peu dans la thématique, un morceau du grand chanteur-compositeur cubain Silvio Rodríguez. Voilà. Et donc, on était en train de parler de la révolution cubaine, donc celle du fameux Che Guevara, de Fidel Castro, qui a eu lieu dans les années 50. On en était à l'année 59, quand la révolution réussit et que les révolutionnaires, les guerriers héros communistes prennent le pouvoir. Donc, on n'a pas parlé trop du rôle des États-Unis pendant la révolution. En fait, ils n'avaient pas vraiment réagi dans un premier temps, pensant que Fidel Castro, peut-être par rapport à ses origines bourgeoises, ne toucherait pas trop à leurs intérêts. C'est souvent ce qu'ils ont pu faire dans leur politique étrangère, les États-Unis, c'est d'attendre qu'un dirigeant prenne le pouvoir, de laisser les choses se faire, et puis ensuite de tenter de corrompre un gouvernement local. Et ils pensaient peut-être pouvoir faire ça avec Fidel Castro. Ça ne les dérangeait pas beaucoup que Batista soit dégagé. C'est peut-être aussi ça qui a permis au niveau logistique, au niveau militaire, aux révolutionnaires de prendre le pouvoir, parce qu'il n'y a pas eu une ingérence trop forte. Mais ils se rendront vite compte, donc les Yankees américains, que l'émancipation de Cuba, sa restructuration d'inspiration communiste, étatiste et redistributive sont réellement le projet des révolutionnaires et que ça va se concrétiser malgré les critiques qu'on peut faire hein, au régime cubain depuis Fidel Castro, qui sont légitimes. Mais c'est pas cette histoire-là que je veux vous raconter. Évidemment, donc, tout ce qui est mis en place à Cuba après la révolution leur occasionne des sueurs froides à ces capitalistes américains. Mise en place d'une réforme agraire avec redistribution des terres aux paysans pauvres, écoles gratuites, soins médicaux gratuits, nationalisation de tous les services essentiels, des pans entiers de la vie des Cubains échappent de fait aux profits capitalistes, ceux de l'aristocratie locale comme ceux des grandes entreprises étrangères. Donc je pourrais vous parler des grands procès qui eurent lieu au lendemain de la Révolution et des dizaines d'exécutions des partisans de Batista par Che Guevara et compagnie. Je pourrais vous dire que Fidel Castro prenait beaucoup de décisions arbitraires, qu'il était autoritaire et que c'est pas bien d'être autoritaire, surtout quand on est de gauche et qu'on réclame la justice sociale, n'est-ce pas Jean-Luc Mélenchon ? Je pourrais vous dire que c'est mieux d'être une démocratie, genre celle de Macron qui est en train de vendre nos services publics aux milliardaires ou celle de Netanyahou qui sème la mort dans tout le Moyen-Orient. Mais ça, c'est un récit que vous pouvez entendre sur CNews, BFM TV ou même France Info. Moi, je veux vous raconter ce qu'a pu raconter Eduardo Galeano, auteur uruguayen dans Les veines ouvertes de l'Amérique latine, un grand bouquin sur l'histoire de l'Amérique latine vu du point de vue des classes ouvrières, des peuples racisés, on va dire, et vu du point de vue surtout de l'Amérique latine. Ou bien alors ce que raconte Victor Dedage dans un entretien passionnant en plusieurs parties sur la chaîne YouTube Canard Réfractaire, que je vous conseille. Vous tapez Cuba Canard Réfractaire sur YouTube et vous trouverez ça, c'est cette série d'entretiens très intéressant. Donc moi ce que je veux vous raconter c'est tout ça, c'est les accomplissements de la révolution cubaine, loin de cette neutralité déprimante et je trouve désastreuse, qui consiste à dire oui le capitalisme c'est mal, mais en même temps le communisme ça fait des morts. Et je trouve que ça c'est un discours qui ne mène nulle part et qui finit par favoriser le statu quo actuel du néolibéralisme. Donc Cuba communiste a formé des milliers de médecins qui sont intervenus depuis des décennies dans d'autres pays d'Amérique latine, entre autres sur des campagnes de vaccination, là où les systèmes de santé étaient minés par le néolibéralisme. Soumise depuis la révolution à une forte pression à cause de la rareté du carburant, l'agriculture cubaine a rivalisé de créativité et a fini par exclure complètement les intrants chimiques, se rendant compte que le rendement à l'hectare est meilleur. Les jardins urbains sont à Cuba une norme car ils réduisent énormément les quantités de carburant dépensées pour acheminer la production jusqu'aux consommateurs, donc jusqu'aux villes. Plus généralement, l'agriculture cubaine, dans l'adversité, montre la voie pour un monde aux ressources raréfiées, mais plus résilient, plus intelligent, plus lent aussi. C'est un petit peu peut-être ce qui nous attend vu la raréfaction des ressources qui s'annoncent au niveau mondial et à laquelle on n'échappera pas. C'est aussi le rêve des altermondialistes de chez nous finalement. Le taux d'alphabétisation à Cuba, lui, a grimpé en flèche après la révolution. Ça, c'est un excellent signe d'une société plus égalitaire où la pauvreté recule. Donc l'alphabétisation massive a permis l'émancipation des masses, leur accès aux études, au monde intellectuel et globalement à une vie meilleure. Les accomplissements et les réussites de la révolution cubaine sont nombreux. Ils n'ont échappé ni aux voyageurs curieux, ni aux universitaires qui l'ont étudié, et même pas aux capitalistes états-uniens. Ces derniers ne sont pas des méchants de film. Ils ont simplement basé sur leur prospérité sur l'exploitation. Autrement dit, sur le fait de dégager du profit, des marges, sur toute activité économique et donc sur le travail de chaque employé du secteur privé. Donc, lorsqu'un pays va à contre-courant de la dynamique néolibérale de privatisation et de dérégulation de l'économie, je suis désolé, ces personnes extrêmement riches voient leur monde s'effondrer. Elles réagissent donc toujours avec violence. À Cuba aujourd'hui, la violence de cette réaction s'exprime par le sabotage total du modèle cubain, par ce blocus meurtrier, criminel, envers un pays qui a juste dit « Non, ici on ne travaillera pas pour les profits capitalistes, on travaillera pour vivre ». Ce pays est une source d'inspiration pour sa désobéissance, pour sa résilience dans la difficulté, et l'humanité entière doit le soutenir. Tout comme elle doit soutenir les Palestiniens qui demandent juste le droit à vivre sur leur terre comme citoyens à part entière. Je vous invite donc, si mon plaidoyer vous parle, à vous renseigner sur les actions de solidarité et les convois humanitaires organisés ici en France, souvent par des sections locales du PCF, mais aussi par d'autres organisations. Ainsi, donc, sur le site du PCF, Parti communiste français, je rappelle, si vous tapez « Solidarité avec Cuba », vous avez accès à un lien, le site s'appelle « Un container pour Cuba », où vous pouvez faire un don pour l'envoi de biens essentiels à Cuba. Sur les accomplissements de la révolution cubaine, j'ai été assez rapide, mais y a vraiment, c'est important de s'intéresser à ça. Et je vous invite donc à écouter les entretiens de Victor Dodage, à lire Les veines ouvertes de l'Amérique latine et tout un tas d'autres livres sur l'histoire de la révolution cubaine, écrits par des gens qui ont su voir ses réussites. On va s'écouter un autre morceau de musique avant de passer au bref d'actu.
C'est de vers de terre, je sais plus sur quel pied danser. Plein de pousse sur ma terre, mon sang toi même stériliser les pommes de terre.
Danser, danser, sur quel pied? Dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied? Quand les bâtards sont aux affaires.
Je sais plus sur quel pied danser, plein de pousse sur ma terre, les pesticides, les engrais ont pollué les rivières. Je sais plus sur quel pied danser, plein de pousse sur ma terre, les papillons au musée, les abeilles sont au cimetière.
Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires.
Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre.
L'aéroport me poussait, puis je suis pas en tête de l'air.
Je sais plus sur quel pied danser, la saffaire fait ses affaires. Ils s'en vont m'exproprier pour construire un parc center.
Danser, danser, sur quel pied? Quand dans l'assiette, c'est la lumière. Danser, danser, sur quel pied? Dans un monde qui ne passe pas sans faire. Danser, danser.
Je sais
plus sûr qu'elle bien danser. Plein de poux sur ma terre, mes sols sont contaminés aux particules nucléaires. Je sais plus sûr qu'elle bien danser. J'en ai 400 depuis hier, puis j'ai jamais su danser. Mais je danse parce qu'il y a plus que ça à faire. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui veut pas s'en faire. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Danser, danser, sur quel pied, bu le poisson dans l'assiette. Danser, danser, sur quel pied, bu la saison sur la planète. Danser, danser.
Voilà, vous êtes de retour sur Radio Escapade, la radio du Piémont Cévenol, dans l'émission Le Sens de l'Actu, émission de décryptage très critique de l'actualité. Vous venez d'écouter Zoufris Maracas, Sur quel pied danser. On va s'écouter maintenant la partie brève d'actu, revue de presse. Enfin, on va s'écouter, c'est moi qui parle. Première brève, petite alerte rapide sur la loi Yadan. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est passé aussi entre les lignes des autres grosses actus internationales. Caroline Yadan, qui est-ce ? C'est une députée sioniste française, hein, il faut bien dire les mots. Elle est sioniste, elle défend les intérêts d'Israël dans les institutions politiques françaises. Une députée qui ne cesse de soutenir le génocide en Palestine et fait un lobbying forcené pour que la France appuie Netanyahou et l'État d'Israël et l'armée d'Israël dans ses crimes. Elle a voulu faire passer tout récemment une loi à l'Assemblée pour littéralement criminaliser la critique de l'État d'Israël en la faisant passer pour antisémite. Donc on est habitué de ça, hein, là, c'est la routine, ces accusations outrancières dans les médias de milliardaires. Mais si ces accusations sont inscrites dans la loi institutionnalisée, ça pourrait devenir dévastateur. Il ne faut pas du tout sous-estimer ça. Ça pourrait exposer les courageux militants pro-palestiniens de chez nous à la répression, à la persécution, à des peines, à des amendes, voire peut-être à la prison. On ne sait pas, hein, c'est quand il n'y a plus de limites. Grâce à la mobilisation et à la pétition signée par plus de 700 000 personnes qu'il y a eu récemment, la loi n'est pas passée, grâce aussi à des députés hein, qui défendent la Palestine en France et puis qui défendent les droits humains. Mais les infatigables partisans du génocide ont déjà prévu de la présenter à nouveau, intacte, la semaine du 22 juin à l'Assemblée. Donc. Restons donc vigilants, mobilisés et montrons que le peuple français sait se ranger du bon côté de l'histoire. Il ne faut surtout pas laisser passer ça. Alors, toujours en lien avec la Palestine, ce qui se passe là-bas, c'est l'histoire du Thousand Madeleine. Vous vous souvenez, le Madeleine, c'est ce bateau dans lequel il y avait donc Rima Hassan, Greta Thunberg et d'autres militants pro-palestiniens qui filaient vers Gaza pour essayer de briser le blocus, d'attirer l'attention sur le génocide. Et dans CQFD, donc mon super mensuel marseillais que j'adore et que je vous ressors à chaque fois, on peut lire ce mois-ci que le mouvement des flottilles donc pour briser le blocus sur Gaza, malgré le désintéressement de la girouette médiatique, continue et qu'il est même en ébullition. Il y a donc ce mouvement des Thousand Madeleine, c'est-à-dire un millier de Madeleine, qui a été lancé à la suite de cette flottille. Qui n'était d'ailleurs pas la première, la flottille avec Rima Hassan. Et donc à Marseille, au quai sans nom, c'est vers l'Estac. Donc moi je ne connais pas bien Marseille, mais voilà, pour les gens qui connaissent, vous arriverez à situer. Il y a en ce moment même des dizaines de bénévoles qui retapent des voiliers destinés à tenter la courageuse traversée. Des volontaires se présentent, soit pour aider au chantier naval, à réparer les bateaux donc, soit carrément pour partir en mer. Mais pour partir, ils sont recrutés sur des critères notamment psychologiques, mais aussi idéologiques assez exigeants. Par exemple, on s'assure bien sûr qu'il n'est pas d'idée antisémite, ce qui est fondamental pour une opération humaniste. Thousand Madeline to Gaza a un site internet, donc renseignez-vous là-dessus. Petit point sur l'Argentine. L'Argentine commémore cette année 2026 un bien triste anniversaire, celui du coup d'état militaire de 1976 qui a mis au pouvoir une junte criminelle qui pendant des années kidnappait, torturait et assassinait ses opposants au nom de la prétendue modernité capitaliste et néolibérale, avec bien sûr le soutien actif des États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que dans ce pays qui a encore aujourd'hui à sa tête une serpillière des États-Unis qui s'appelle Javier Milei, pardon, on avait dit qu'on évitait les insultes, ça n'est pas une serpillière, c'est un mot de la vie courante. Donc la société argentine, à l'occasion de cet anniversaire, s'est massivement mobilisée tout récemment dans des manifs de commémoration, mais surtout contre la politique actuelle de Milei, qui a fait passer en février notamment une loi sur le travail, étendant la journée de travail à 12 heures, facilitant les licenciements, réduisant les indemnités, entre autres. Donc une casse du droit du travail hein, qu'on connaît aussi en France actuellement. Mais l'Argentine sont dans un état encore plus dégradé malheureusement sur le droit du travail. Donc c'en est trop pour les Argentins. La rue se réveille en Argentine et il se pourrait bien que dans pas longtemps, Milei se retrouve à filet doux en hélico dans la bonne tradition nationale. Moyen-Orient. Pendant que le colosse au pied d'argile États-Unis continue de nuire dans le monde entier, donc comme on l'a bien vu ce mois-ci, c'est l'Iran qui le fait en ce moment sérieusement vaciller, qui l'humilie même, je dirais, en réussissant à bloquer le détroit d'Ormuz depuis un bon mois et en bombardant alliés et positions des États-Unis depuis des retranchements inaccessibles. Donc les toutes dernières nouvelles, c'est qu'il y a eu un cessez-le-feu, puis en fait une reprise des hostilités récemment. Donc en gros, les opérations américaines là-bas sont pas du tout facilitées par l'Iran. Mais ce qui se passe en Iran a tendance à effacer la catastrophe qui se joue au Liban, donc pays voisin d'Israël, que l'armée israélienne est en train de bombarder et d'envahir en causant des milliers de morts et de déplacés. Donc, en quoi ça nous concerne tout ça, cet international? C'est que tant que la complaisance européenne et notamment française durera, ces crimes resteront impunis. Ça nous ramène à ce que je disais sur la loi Yadan, contre laquelle on peut faire quelque chose là, parce qu'elle revient à l'Assemblée en juin. Mais cette situation pourrait ne pas durer. Et il y a l'Espagne, par exemple, qui en refusant la coopération avec l'axe Trump-Netanyahou, a montré la voie d'un désalignement des États-Unis, un désalignement européen, qui serait salutaire et qui sauverait notre honneur et notre humanité à tous. Voilà, c'était tout pour le sens de l'actu du mois d'avril. Merci de m'avoir écouté. Désolé pour les petits bugs sur la lecture du texte. Et je vous dis au mois prochain pour parler d'actualité, toujours avec cet axe anticapitaliste et très hors des médias classiques de milliardaires. Allez, salut, bonne journée à vous.